France Culture. Les nuits de France Culture.
Pour des milliers de soldats français de la guerre d'Indochine, la défaite ne se limita pas à sa dimension militaire. Elle prit une teinte très politique, avec la détention dans des camps de rééducation. Parmi ces installations de sinistre mémoire, le camp 113, dont l'un des dirigeants n'était autre qu'un Français, militant communiste, devenu commissaire politique, rallié à la cause du Viet Minh, Georges Boudarel. Après plusieurs années de pérégrination d'un bout à l'autre du bloc soviétique, dans les années qui suivirent la guerre d'Indochine, Boudarel, qui avait été condamné à mort par contumace, rentra en France en 1966 à la faveur d'une loi d'amnistie. Mais l'affaire Boudarel, la révélation de son rôle politique et militaire, n'éclata qu'un quart de siècle plus tard. L'émission que voici, qui est un numéro de l'Histoire en direct, fut réalisée précisément dans ce contexte. Plusieurs grands témoins de la guerre d'Indochine y prennent la parole, dont Georges Boudarel lui-même, qui revient sur ses agissements passés, ses motivations politiques, sans négliger aucun aspect de son parcours personnel. C'était le 3 juin 1991 dans l'Histoire en direct.
Histoire en direct. Histoire d'un camp Viet Minh.
Indochine.
Ah ouais. Madagascar,
Antilles,
Réunion.
Les actualités d'outre-mer.
Un port, Marseille. Un navire, la ville de Strasbourg. Les hommes, ceux de la deuxième DB. Une destination, Indochine. Des villes, d'hommes, de pays, un seul drapeau, les trois couleurs, une seule devise, liberté.
La sirène retentit. Les cœurs battent. Les braves de Leclerc, accoudés au bastingage, regardent s'éloigner cette terre de France où tant de leurs camarades sont tombés au champ de 16. Vers l'Indochine.
Les hommes de la 2e division blindée sont les premiers soldats français à partir pour l'Extrême-Orient, vers ce qui deviendra bientôt une des guerres les plus meurtrières de la décolonisation, la guerre d'Indochine. Mais en 1945, personne ne s'en doute encore. Les hommes de Leclerc, qui viennent de se battre contre l'armée allemande, ne devraient avoir aucun mal à venir à bout des maquisards, de la Ligue pour l'indépendance du Vietnam, le Viet Minh, dont le chef Ho Chi Minh a osé proclamer l'indépendance de son pays le 2 septembre 1945. Leclerc ne sous-estime pas la détermination de ce communiste avec lequel il négocie. Mais il n'est pas écouté. En décembre 1946, l'armée française prend Hanoï, la capitale de ce gouvernement Ho Chi Minh, qui s'enfuit et se cache dans la jungle du Viet Bac, sur les hauts plateaux du Nord-Vietnam. Pendant 4 ans, il y mène contre la France une guerre de guérilla, puis en 1950, grâce à l'aide chinoise, une véritable guerre. Sur la RC4, la route coloniale 4 qui longe la frontière chinoise, le corps expéditionnaire français subit sa première grande défaite. Entre Cao Bang et Lang Son, 3000 hommes disparaissent. Pour certains, c'est le début d'une longue captivité, la découverte d'une armée fanatisée et de ses commissaires politiques qui amènent les prisonniers français dans les premiers camps Viet Minh.
Vous êtes un colonialiste. un serviteur des fauteurs de guerre français et des impérialistes américains. Vous êtes un ennemi du peuple vietnamien et du peuple de France. Normalement, nous devrions vous supprimer. Vous méritez la mort. Le peuple a le droit de vous tuer. Il le ferait si notre grand président Ho Chi Minh n'avait pas instauré sa politique de clémence, qui vous laisse la vie sauve pour nous permettre de vous rééduquer et de faire de vous un combattant de la paix.
Claude Bailey, en Indochine, vous étiez sergent au 3e régiment intérieur marocain. Vous avez été capturé près de Nassan le 20 novembre 1952. Et puis après avoir travaillé pendant 5 mois sur les hauts plateaux, vous avez été envoyé dans un camp réservé aux sous-officiers et soldats français, le camp 113. Vous vous souvenez de votre arrivée ?
Je suis arrivé au camp 113 le 16 avril 1953. D'entrée, j'ai vu où nous étions tombés. D'entrée, dès que nous étions sur la route, j'ai dit attention, si maintenant tu fais pas attention à ta petite personne, c'est-à-dire, je m'entends bien, le soir, puisque nous n'avions pas de local, on couchait à même le sol, moi je mettais quelque chose sous le dos, je commençais de l'herbe, je mettais quelque chose, de façon à m'isoler, ce que ne faisaient pas certains. Je faisais attention à l'eau que je buvais, je faisais attention à la quantité de détails que ne faisaient pas certaines personnes, de manière à pousser, à prolonger cette survie le plus longtemps possible, parce qu'on s'est bien rendu compte que là, c'était un phénomène de survie. Les Viettes nous avaient laissé comprendre que on nous avait pas tués, mais il fallait s'attendre à rien d'autre. À nous de nous débrouiller, de mener notre vie de façon à pas leur compliquer l'existence, mais à nous de nous débrouiller avec les moyens du bord. Moi, c'est l'impression première que j'ai eue en arrivant, dès que j'ai monté cet escalier, où il y avait des gars à toutes les marches qui étaient assis, qui se demandaient comment ils allaient monter l'autre marche, qui restaient là des demi-journées, complètement hagards, en haillon, ça m'a frappé. D'un seul coup, je revoyais la déportation. On savait bien que chez les Viettes, c'était pas la fête, mais découvrir une telle vision, ça m'avait vraiment fait quelque chose. Et arrivé au camp, nous avons fait connaissance avec le chef de camp qui s'appelait Bin, et derrière ce chef de camp, il y avait donc en retrait Boudarel, un Européen qui était en son Boudarel.
Ça a dû vous surprendre quand même de voir un Français là.
Oui, ça nous a surpris. Nous avions déjà rencontré des ralliés, mais des ralliés qui étaient vraiment insignifiant. Il suivait la masse des Viettes, mais il n'avait aucune fonction vraiment définie et comparable à Boudarel. Boudarel, c'est autre chose. Boudarel, lui, c'était un autre monsieur, c'est pas pareil.
Arrivé en Indochine en 1948, professeur de philosophie au lycée Pierre et Marie Curie de Saïgon, communiste, stalinien et anticolonialiste, Georges Boudarel a rejoint les maquis Viet Minh de Cochinchine en 1950. 2 ans plus tard, après une marche vers le nord de 1800 km, il gagne les maquis du Viet Bac et devient commissaire politique du camp 113, dans la région de Myo Nhoc, le pays des eaux contraires, près de la rivière d'Or.
On m'appelait Daidong, qui est un terme très connu de la philosophie politique chinoise, qui signifie la fraternité universelle. C'est un peu un synonyme du cosmopolitisme, appelons ça comme on voudra.
Georges Boudarel, en janvier 1953, donc après votre périple du sud vers le nord, vous arrivez au camp 113. Quelles étaient vos fonctions? Et puis surtout, comment avez-vous découvert ce camp? Est-ce que vous pouvez nous le décrire?
Ma fonction était de faire un travail d'éclaircissement politique, je dirais pas d'éducation. J'ai découvert le camp psychologiquement, au moment où j'y suis arrivé. Je m'étais posé la question, je savais que je serais affecté à ce travail de propagande auprès des militaires français. Je n'en mesurais pas toutes les coordonnées psychologiques avant d'arriver. C'est pourquoi j'avais posé des questions à un Marocain, à un légionnaire allemand, comment s'adresser aux hommes. Il m'avait dit, l'Allemand m'avait dit, tu leur dis, aux prisonniers ici présents. Pour moi, c'était quelque chose d'impensable. Je pouvais pas non plus dire camarade, parce que ça me semble pas être le mot. Je sais plus comment j'ai abordé les hommes.
La première des choses que nous a dit Boudarel, c'est dire, voilà, vous êtes en retard, vous êtes attardé politiquement. effectivement, nous avions 4 mois, 5 mois de captivité, on n'avait pas eu cette permanence, si vous voulez, continue de cours politiques tels que ça se pratiquait au camp 113. Nous, on ne connaissait pas ça. Alors on est arrivé vraiment des novices. Alors il m'a dit, pour que vous repreniez un petit peu le rythme par rapport à vos camarades, il faudra que je vous fasse des cours supplémentaires, enfin, un genre de rattrapage, de manière à ce que vous mettiez tout de suite, que vous ne soyez pas trop décalé par rapport à eux.
Mais qu'est-ce que vous éprouviez pour lui, vous, personnellement?
À moi, d'entrée, moi, ça a été une sorte de dégoût pour ce gars-là. Pas le fait que c'était un rallye, je vous dis, des ralliers, on en avait vu d'autres. Tandis que Bounarin, c'est autre chose. Lui, on sentait qu'il était antimilitariste, et il nous faisait payer la facture.
De ces camps Viet Minh, sans barbelés, sans miradors, il est presque impossible de s'évader. La population et la nature sont hostiles et les pertes considérables. Entre 50 et 75% des prisonniers meurent de dysenterie, du paludisme, de la malaria, du beriberi. Pertes variables selon les saisons, les camps et les témoignages. Georges Boudarel.
Le camp 113 était formé de 4 ou 5 baraques qui pouvaient avoir chacune 25 à 35 hommes, qui couchaient sur des bafflins de bambou, c'est sûr que cela avait été construit par les prisonniers eux-mêmes à une époque où je n'étais pas là. La vie des prisonniers était uniquement consacrée à leur propre activité. Au niveau des corvées, on parle de corvées, il y avait une corvée pour aller chercher le riz, à, disons, il me semble, 15 à 25 kilomètres de là, par une piste assez mauvaise à travers la forêt, mais il n'y avait pas d'autre chemin pour venir, pour aller prendre le riz. Moi-même, j'ai participé à la première corvée pour voir à peu près ce que cela donnait physiquement. Je pense que chaque homme portait 10 à 15 kilos de riz, à peu près. L'autre travail consistait à aller couper du bois, des bambous ou ramasser du bois mort pour faire la cuisine, surtout pour faire bouillir l'eau, car... boire l'eau, nature, autant boire du poison, c'est avoir la dysenterie à une vitesse grand V. L'autre travail consistait à piler le riz.
Comme le camp 113 n'avait pas d'intendance, il fallait aller chercher le ravitaillement à l'extérieur. C'était variable, jamais au même endroit, sauf pour le riz, mais ça pouvait très bien varier, les kilomètres étaient extrêmement importants. Donc, vous aviez les Viet, ils prenaient 20 ou 25 gars. Ce n'était pas évident que dans ces 20 ou 25 gars, ils soient tous de taille, de ma constitution, par exemple, pour faire 30 kilomètres et donc 15 ou 20 kilomètres au retour avec 25 kilos de riz. Jamais une fois, Boudarel, par exemple, s'est interposé auprès du surveillant général en disant « Non, mais vous mettez ce gars-là pour faire 25 kilomètres, il tient, vous voyez bien, il ne tient pas le bout. » Ça, je ne l'ai jamais entendu dire, Boudarel, ça. À aucun moment, on a eu l'impression qu'il avait un peu de sensibilité vis-à-vis de nous. Au contraire, tout laissait supposer que c'était l'inverse qui se produisait dans son esprit.
Je me suis trouvé au point où la guerre broyait les hommes. Pas par les obus ou les balles, mais par les maladies, par le climat, par la pénurie ambiante causée par l'armée française. Ça, c'est un premier point. Et de ce point de vue-là, il est certain que si j'avais eu le moyen de faire autre chose, si j'avais su ça, je n'y aurais pas été. Le deuxième est la responsabilité. Quand on envoie des hommes à la guerre, on se préoccupe de leur situation une fois qu'ils sont faits prisonniers. Or, personne au niveau du gouvernement général ou du commandement de l'armée française d'Indochine n'est vraiment intervenu pour tirer ces hommes d'affaires. Les responsables sont à situer au niveau des autorités françaises civiles et militaires, et également de la Croix-Rouge.
Là, il y avait des morts, et même beaucoup de morts, surtout pendant l'été.
Ho Nhop, responsable de la rééducation des prisonniers dans les camps Viet Minh.
Là, nous vivions, les camps de prisonniers étaient installés dans des cuvettes, dans la montagne. C'était très humide et très chaud, donc très malsain. Les vapeurs étaient lourdes, on respirait difficilement. Et le malaria faisait rage. Alors, même tous les soldats vietnamiens, y compris moi-même, étaient atteints de malaria. Et beaucoup mourait à cause des excès pernicieux. Alors, comment les soldats de France ont voulu bénéficier des privilèges donnés par la nature, France la Lunce. Comment les enfants de la France la Lunce pouvaient supporter le climat meurtrier du Vietbac?
Il est un fait certain que le Viet Minh n'avait pas grand-chose pour lui-même, ça c'est sûr.
Claude Baillet.
Le système des médicaments arrivait à peu près une fois tous les mois et demi au camp. Pas beaucoup, mais quand ça arrivait, quelques-uns pouvaient en bénéficier. Maintenant, j'ai été longtemps opposé à la Croix-Rouge, et je dis encore, c'est très dur à passer, ma position vis-à-vis de la Croix-Rouge, parce que j'estime qu'elle n'a pas joué le jeu dans ces camps-là. Parce que si les Viet nous prenaient, dans les parachutages, nous prenaient les trois quarts de la marchandise, il y en avait quand même un tout petit quart qui revenait. On aurait pu, du fait que le camp était localisé, il aurait pu y avoir, sans doute, nous n'étions pas des milliers, des milliers, des milliers de milliers, le parachutage aurait pu être beaucoup plus régulier.
Le président de la République. Paris, le 27 mai 1952. Très secret. Monsieur le président du Conseil. D'après un capitaine médecin de la RC4 qui vient de rentrer, nos prisonniers aux mains du Viet Minh meurent à raison de 1 sur 2. Sur 2500 prisonniers à l'origine, 1300 sont morts. Cette situation est tragique. Depuis plus de 15 mois, on avait demandé que l'on parachutât des vivres et des médicaments sur les camps de prisonniers. Or, rien n'avait été fait jusqu'à ces jours derniers. Si l'on prétend que les camps d'Ho Chi Minh prélèveraient la plus grande partie des vivres parachutés, on peut répondre qu'ils n'oseraient probablement pas prendre la totalité et qu'il en resterait toujours une certaine quantité pour nos prisonniers. On ne doit d'ailleurs reculer devant rien lorsqu'il s'agit de venir en aide à des hommes affaiblis et malades. Vincent Auriol.
Pas d'hygiène du tout, même dans les camps de troupes, puisqu'il n'y avait pas de...
Jean Pouget, capturé à Dien Bien Phu.
Les Viet faisaient exprès. Pas de médicaments. Tandis qu'au camp numéro 1, c'était très différent. Il y avait des médecins. Et un en particulier, qui s'appelle Armstrong, il a été un des animateurs, a dit, il faut absolument que, puisqu'on n'a pas de médicaments, qu'on prenne des mesures d'hygiène extrêmement rigoureuses. Il était interdit de boire de l'eau crue. C'est-à-dire de l'eau qui n'ait pas été bouillie. Parce que ça, c'était mortel. D'ailleurs, les Vietnamiens, quand ils ont découvert le Nord, il y a longtemps, ils l'appelaient le pays aux eaux claires qui tue. Contrairement à ce qu'on croit dans ces pays, il faut boire de l'eau stagnante dans une mare, parce que celle-là, elle est purifiée par le soleil. L'eau courante est complètement pourrie par des tas de bacilles auxquelles l'Européen n'est pas habitué, qui le tue.
Je ne me souviens pas d'avoir pris de l'eau de la rivière une fois pour la boire. Bon, j'avais la force physique pour me permettre de la faire bouillir dans un bambou vert, que l'on faisait chauffer, enfin on avait un système pour le faire chauffer, on s'en servait deux fois, mais je faisais bouillir mon eau. Ou alors quand on allait faire des corvées de couper les bambous, dans les bambous verts, il y a de la sève. Entre deux nœuds, on savait que cette eau était pure. Ou alors au moins quand on tombe sur une fontaine qui est une source dans la nature. Mais l'eau du camp n'y touchait pas pour la raison suivante. Que ce petit cours d'eau qui servait aux gens de l'infirmerie pour laver leurs affaires se jetait 100 mètres au-dessus du point d'eau que l'on prenait normalement. Automatiquement, cette eau était polluée. Donc les dysentériques et tous ces gars qui se trouvaient à l'infirmerie, qui venaient laver leurs affaires là, ceux qui prenaient cette eau, à un moment donné ou à un autre, c'était sûr d'être contaminé. Jamais une fois, par exemple, la direction du camp, et non Boudarel, puisqu'il était commandant, jamais a interdit qu'on prenne de l'eau à cet endroit-là. De ce côté-là, on avait l'impression qu'il était heureux de voir la disparition des soldats français. On ne peut pas accuser cet homme-là de torture physique, en m'entendant bien, de coups de poing, de coups de bâton. Là, ses dessins sont je trouve, moi, c'est caché. C'était caché, son histoire. C'était encore plus dangereux. J'aurais préféré prendre une gifle que, sciemment, en sachant que le gars allait prendre de l'eau à cet endroit-là, pendant des jours et des jours, il allait finir automatiquement par en devenir... ça ferait mort, un jour ou l'autre.
Si on m'avait dit, tu vas dans ce camp, où tu vas trouver 100 à 150 hommes qui seront relativement en bonne santé quand tu arrives, parce que c'était le mois de janvier. Dès le mois de février, ils vont commencer à tomber malades par le paludisme, la dysenterie, etc. Et tu n'auras rien pour les aider. Je n'y serais pas allé. Ce qu'il y a, c'est qu'une fois dans le camp, il ne m'était plus possible de revenir en arrière. Pour, je dirais, plusieurs raisons. Une raison d'ordre idéologique qui fait que je respectais la discipline du camp que j'avais choisi, mais également une raison d'ordre pratique qui était que, du côté français, j'étais condamné. Je ne pouvais donc pas retourner au côté français. J'en avais pas non plus l'intention. Tout ce que je pouvais faire,
Vous étiez condamné à mort.
J'étais condamné à mort pour trahison. Donc le retour de l'autre côté était impensable. D'autre part, il était irréalisable, à moins de faire une évasion comme... pouvaient le faire certains prisonniers. Lesquelles évasions ont été réussies, je pense, dans une fois sur 5 ou sur 10, s'évader du fond de la forêt du Viet Bac, était quelque chose d'invraisemblable. Donc, si vous voulez, pour moi, tout ce que je pouvais faire, c'était faire des rapports pour demander la libération de tout le monde, demander des médicaments, évidemment, qui ne venaient pas.
Dans les brigades, on gardait le plus longtemps possible les grabataires. On les voyait décliner. Mais enfin, si ça avait été un bon copain, on essayait de le garder le plus longtemps possible avec nous, de manière qu'il ne descende pas à l'infirmerie. Parce qu'on savait que l'infirmerie, le gars qui descend de l'infirmerie, était condamné. Pratiquement, il avait pas de chance, ou très peu de chance de revenir.
Georges Boudarel, l'infirmerie, beaucoup appelaient ça le mouroir, comment était-elle?
C'est vrai, c'était... une petite baraque où pouvaient rentrer 10 ou 15 hommes, peut-être. Et en général, quand on descendait à l'infirmerie, on était à la porte du cimetière qui était à côté. Ça, c'est le plus terrible. C'est pourquoi je garde un souvenir épouvantable de cette période-là.
C'était un endroit où nous ne devions pas rentrer. Un jour, je me suis risqué parce que je voulais savoir. Tout le monde parlait de cette infirmerie, elle était un peu à l'écart, il y avait une partie boisée pour aller à cet endroit-là. J'ai voulu savoir, j'y suis allé, et quand je suis rentré là-dedans, j'ai compris. Les premiers malades qui étaient juste en face de la porte étaient sur une espèce de c'était pas une civière, c'était une espèce de sommier en bambou tressé, et à l'emplacement des fesses, il y avait un trou qui permettait à ce gars qui était dysenterique complètement, qu'on a mis à cet endroit-là, de faire ses besoins sans se lever, et que ça tombait dans une espèce de petit panier. Il y en avait 2 ou 3 couchettes comme ça. Et puis alors, tout le long de chaque côté, vous aviez ce qu'on appelait nous des baflans, où ces grabataires là, restaient là jusqu'au bout.
Il y a un trou vide que l'on vient de creuser pour le mort. Le mort en captivité. Celui qui meurt pour la liberté de crever au profit des fossoyeurs de l'humanité et de son pays, où seules les fosses sont communes. Devant ce mort jauni dans sa rigidité, les autres, les vivants toujours en captivité, semblent attendre l'ombre de leur propre croix. Tournés vers Dieu, les croyants implorent pitié. Délivrez-nous, Seigneur, du spectre de la mort. Les athées fatalistes s'accablent du destin. Mais parmi ces vivants, au milieu de ces morts, se dresse l'homme nouveau qui croit au lendemain, celui qui veut et qui ne veut pas, et qui sait, celui qui sait que les morts crient vengeance et qui veulent retrouver dans le souterrain ceux que les fatalistes appelle le destin. Jean Robert, prisonnier au camp 113.
Quand on enterrait les hommes, le sorcier du village, qui était un homme très influent, mais qui lui devait être pro-français, disait auprès de la population que on avait enterré un blanc sur une des veines du dragon qui traverse le village, que donc ça avait une influence maléfique sur telle ou telle tombe, telle ou telle maison, et on devait périodiquement déplacer l'emplacement du cimetière. Ce sont des choses dont, ici en France, on se rend très difficilement compte. Je prendrai un autre cas pour améliorer la situation. Un des prisonniers qui était corse m'avait dit, Monsieur Boudarel, est-ce qu'on ne pourrait pas traire les chèvres? Parce que c'est vrai qu'il y avait des chèvres qui n'étaient utilisées par la population que pour la viande. Il n'est jamais parvenu à faire traire les chèvres. Par suite de préjugés qui tiennent à une certaine mentalité asiatique sur tout ce qui est féminin. Et c'est vrai qu'au Vietnam, une femme qui n'a pas de lait donnera à son bébé de l'eau, du riz, ce qui n'a aucun pouvoir alimentaire. Alors qu'on pourrait traire une buflesse qui donnerait sans doute pas beaucoup de lait. Je crois qu'il y a là des problèmes dont on mesure très très mal la complexité vu d'une part de l'Occident, d'autre part de l'Occident des années 45-46 et autres.
Est-ce qu'il y avait ou pas une ration différente selon la docilité des prisonniers?
Écoutez, moi, là, je ne m'avancerai pas trop. Le système était tellement répressif par lui-même. Il fallait, je ne sais pas jusqu'à quel point on aurait bien pu descendre beaucoup plus bas. Parce que, vous savez, avec 400 grammes de riz pour la journée, ça ne représente pas grand-chose. Hein, pour des gens qui sont obligés de faire certains travaux, qui sont dans un milieu ambiant qui n'est pas le leur, sans médicaments, sans rien du tout. Moi, je me souviens pas d'avoir vu vraiment de gens qui ont été à qui l'on a supprimé le repas.
Claude Bellet, beaucoup de gens sont morts au camp 113. Est-ce que le Viet Minh a exécuté des prisonniers? Est-ce qu'il y a eu des brimades physiques?
Je connais deux cas. Au camp 113, où je peux engager la responsabilité du Viet Minh, par la même occasion, Boudarel, puisqu'il était quand même commandant second. Le camp d'un GCMA, vous savez ce que c'est que le GCMA? C'est un groupe de commandos mixtes aéroportés. C'était un sergent qui commandait, vous aviez une petite poignée d'Européens, et puis tout le reste, c'était des supplétifs vietnamiens. Or, ce gars-là, c'était un drogué. Malheureusement, il n'y en a pas eu que chez les Américains. C'était un fumeur d'opium, très, très gros fumeur d'opium. Les Viet l'ont bastonné énormément, et si bien quand il est arrivé chez nous, il n'a jamais pu récupérer, et il a été en manque, bien sûr. Quand mon chef de brigade a vu que le gars déclinait totalement, il est allé trouver la direction du camp, donc Boudarel, en disant, écoutez, est-ce qu'il n'y avait pas moyen d'avoir un peu d'opium pour prolonger ce gars-là? Bon, ça a été le refus systématique. Ce gars est mort fou, complètement marchant à quatre pattes comme un chien, je cite ça, non, je résume. Et le deuxième cas où je peux impliquer la torture physique, ça a été sur un évadé. Un matin, on se lève, le gars avait fait un radeau dans la nuit, et puis il s'était sauvé. Je le cite. Ce gars a été repris par la milice, ramené au camp, dans un état... Parce que quand on tombe chez les miliciens, les gars ne faisaient pas le cadeau. Il les ramène au camp, jugé par le commandant du camp. Boudarel a demandé qu'il fasse son autocritique, le gars a refusé de faire son autocritique. Le commandant du camp a dit, donc, c'est comme ça, qu'est-ce que vous feriez à ma place? Si vous étiez à ma place, qu'est-ce que vous feriez? Alors, il a dit, je ne sais pas, mais enfin, peut-être bien que je préconiserais la mort. Ils l'ont attaché sous une baraque, et de très court, de façon que tous les prisonniers le voient bien, ça se trouvait entre la rivière et l'escalier, on était obligé de passer devant ce local plusieurs fois par jour. Et ce gars-là, il en a fait mourir en dessous. Il est attaché très court, à la charge des fourmis rouges et des rats qui se sont attaqués à ses plaies, qui ont des hématomes et tout ce qui s'ensuit, et les moustiques. Il est devenu fou, et il est mort là-dessous. Boudarel dit qu'il y est resté une journée, et il ment totalement parce qu'il y est resté plus que ça.
Les Vietnamiens n'avaient aucune intention, y compris dans le Parti communiste, de liquider les hommes de l'armée française. Pourquoi ? ferait-on des exposés politiques sur la guerre à des hommes qu'on veut voir disparaître? Il n'y avait pas d'exposés politiques à Dachau, Buchenwald ou Auschwitz. On envoyait les gens à la mort. Ce qu'il y a, c'est que le nombre de prisonniers n'a pas correspondu aux capacités de ravitaillement et d'organisation qu'avaient les Vietnamiens à cette date. Ça a été pour eux un phénomène absolument nouveau à résoudre et qui posait d'énormes problèmes. Alors je ne crois pas qu'on puisse non plus exiger d'un adversaire qu'il fasse plus de sacrifices pour les prisonniers qu'il a que pour ses propres hommes.
Instruction concernant l'organisation des camps de prisonniers de guerre. Notre comportement à l'égard des prisonniers de guerre doit être les bien traiter. Bien traiter ne veut pas dire favoriser. Les éduquer politiquement pour les convertir, pour leur faire comprendre les ruses de l'ennemi, pour leur faire connaître ceux qui sont leurs amis et ceux qui sont leurs ennemis, leur faire comprendre l'organisation de notre résistance, les aider à vérifier leurs fautes et crimes, à comprendre leurs devoirs quand ils bénéficient des mesures de clémence. Ces prisonniers doivent devenir des documents vivants de propagande parmi la population et dans les rangs ennemis.
Nous avons à ce moment-là deux conseillers français.
Hun Yop.
Envoyé par le Parti communiste français. L'un avait comme pseudonyme André et l'autre Roland. Alors, avec ces deux conseillers, nous avons cherché à comprendre la psychologie des prisonniers français et africains aussi. Pour leur donner un travail d'éducation et les gagner à notre cause. Alors, l'essentiel, c'est de gagner à notre cause les soldats français. Voilà le but.
Et comment procédiez-vous, justement? Comment faisiez-vous pour les gagner à votre cause? Vous leur appreniez le marxisme ou vous leur expliquiez aussi qu'ils étaient en tort
Non. On ne parle pas de marxisme aux prisonniers. Non, jamais.
Nous ne voulons pas faire de vous des communistes, car vous n'en êtes pas dignes. Mais nous voulons vous aider, vous arracher à l'erreur, à l'inconscience, à l'obscurantisme, dans lesquels le capitalisme vous a systématiquement plongé et entretenu pour vous amener à faire la guerre d'agression contre le peuple vietnamien.
Si je me rappelle bien, voici le processus de notre cours. Dans une première leçon, il s'agit de démontrer que le peuple vietnamien, comme les autres peuples, a le droit à la liberté et que il a le droit de se défendre contre ceux qui sont contre cette liberté. Dans la deuxième leçon, elle parle de ce que c'est que la nation vietnamienne. Géographie, histoire, civilisation, etc. Pour leur faire connaître un pays qu'avant de débarquer en Russie, ils avaient pris pour barbare. Une troisième série de leçons où, oui, c'est ça, prend comme sujet l'enseignement du président Ho Chi Minh. Alors c'est du marxisme qui ne dit pas son nom. Un marxisme humain, très simple, qui dit que les soldats dans l'armée française sont également exploités par les classes capitalistes françaises. Exactement comme nous. En tant que coloniaux, nous avons été exploités par les mêmes ennemis. Donc nous sommes frères. Donc il n'y avait pas de haine entre nous. Au contraire, nous sommes des frères. Et c'est une idée fondamentale. Je crois que c'est le fil rouge de la politique vietnamienne à l'égard des prisonniers de guerre.
Nous avons une haine. Une haine sacrée et farouche contre les brigands colonialistes. Mais cette haine n'est pas pour vous, victime de la politique colonialiste criminelle, qui signifie pour vous la servitude, la misère, la mort. Car nous savons distinguer entre les impérialistes, valets des fauteurs de guerre américains, et vous, fils des braves travailleurs de France et des autres pays. Ho Chi Minh.
Nous ferons la paix de par le monde, unis à tous les peuples vainqueurs. Nous serons au milieu de la ronde du bonheur et de ses défenseurs. Nous serons au milieu de la ronde du bonheur et de ses défenseurs.
Bailey, en quoi consistaient ces cours politiques?
Bien, les cours politiques étaient pris toujours sur un thème bien particulier. Tout à l'heure, je vous parlais du largage par la Croix-Rouge des médicaments. Ce thème-là a été débattu pendant 3 semaines entre les brigades, jusqu'à ce que l'on fasse accepter aux brigades, en se querellant entre elles, que vrai, effectivement, il y avait violation de territoire et prise de guerre. De façon à bien faire comprendre que si les Viettes avaient piqué les 3/4 du parachutage, c'était normal. Il a fallu que la masse arrive, si vous voulez, en déduire que c'était normal. Voilà, cette discussion, il a fallu l'amener. Bon, Bouzarel lançait le thème aux gens en demandant la parole. Et alors, inutile de vous dire que les frictions, allez, parce qu'il y a des gens quand même qu'il faut quand même le reconnaître. Il y a des gens qui n'ont pas mordu au système, mais il y a des gens, malheureusement, qui ont mordu au système.
Alors, dans ces exposés,
Georges Bouzarel,
les thèmes que je développais étaient principalement les thèmes de la paix et du rapatriement. Il est certain que, étant stalinien, je développais, à côté aussi, des thèmes sur l'Union soviétique, les réalisations mirobolantes du régime de Staline, ce que je regrette aujourd'hui profondément, car c'était une stupidité absolue dont je ne me rendais pas compte à l'époque. Il reste que les Vietnamiens, contrairement à ce qui se dit souvent, et à ce qui s'est écrit aussi dans beaucoup d'ouvrages, les Vietnamiens, même communistes, n'étaient pas stupides au point de penser qu'ils allaient transformer des militaires de carrière ou des engagés volontaires en militants communistes.
Alors il y avait la rééducation.
Général Bijard, capturé à Dien Bien Phu, prisonnier au camp numéro 1.
Rééducation, alors, comme c'était comme des gars qui avaient 40 ans ou 35 ans ou 45 ans, et la rééducation, c'était par exemple, il m'avait mis chef de groupe, responsable de l'ensemble des colonels. Les Viettes m'avaient mis chef de groupe de pourquoi faire le total des prisonniers. Bon. Alors, on avait à discuter, par exemple, le problème, c'était que pensez-vous de l'aide américaine à la France? Alors, discuter là-dessus, et moi, comme chef de groupe, je devais le rendre compte de nos conversations. Alors, on était là ensemble, nous, entre Français, puis on discutait si on s'en sort, tiens, on tâchera d'acheter telle bagnole, il paraît qu'à telle marque est pas mal, ou on ira bouffer à tel endroit. Enfin, vous voyez, on essaye de s'évader, quoi. Bon, et puis alors, au bout de 2 heures, quand même, faut que j'aille rendre compte, il faut que j'aille m'expliquer maintenant. Alors, j'arrivais près des Viettes, alors j'ai dit, écoute, on a discuté longuement, on a essayé d'approfondir. On ne peut vous répondre que quand vous nous direz ce que vous pensez d'être chinoise à votre pays, quoi. Alors, paf. Alors, privé de riz pendant 2 jours. Enfin, voyez le truc.
Là, l'orphéon du camp s'entraîne, digras dim boum, pour chanter comme un. Faut être courageux. Et bien entendu, il faut de la sagesse pour chanter comme un. Faut être courageux. Et bien entendu, il faut de la satra. La 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 la.
On ne voulait pas employer la contrainte ou la force dans les camps. Alors, on faisait comprendre aux prisonniers qu'il était dans leur intérêt de faire cesser le plus tôt possible la guerre et de donner la main par-dessus les océans au peuple français qui luttait contre la sale guerre. Puisque le peuple français luttait dans la métropole contre la sale guerre, pourquoi vous, dans le camp, ne tendiez pas la main à votre peuple pour faire finir cette guerre et rentrer le plus tôt possible dans votre pays? L'intérêt était comment?
L'acier d'une charrue vaut bien mieux que celui d'un level. L'un nourrit pendant que l'autre tue. L'un est utile et l'autre est criminel. Non, non, plus de combat. La guerre fait trop de victimes. Ici, comme la là-bas, les gens sont tous une poitrine. Non, non, plus de combats, et ne nous tuons plus entre frères.
Quand nous allions à la corvée de bois, les cambous, les commissaires politiques, nous interrogeaient de cette façon.
Pourquoi allez-vous à la corvée de bois?
Pour faire du feu.
Pourquoi voulez-vous faire du feu?
Pour cuire du riz.
Pourquoi voulez-vous cuire du riz?
Pour bien remplir nos estomacs.
Pourquoi voulez-vous remplir vos estomacs?
Pour être en bonne forme.
Pourquoi voulez-vous être en bonne forme?
Pour arriver joyeux lorsque nous serons libérés grâce à la clémence du président Ho Chi Minh et que nous verrons nos femmes et nos enfants.
Avez-vous de la reconnaissance pour la clémence du président Ho Chi Minh?
Nous sommes remplis de reconnaissance pour la clémence du président Ho Chi Minh.
Êtes-vous résolu pour montrer votre reconnaissance à bien faire la corvée de bois?
Nous sommes résolus à bien faire la corvée de bois. Nous voulons aussi frapper des mains, chanter et danser en l'honneur du président Ho Chi Minh.
Aujourd'hui, tous tes enfants vont vers toi le cœur content. Ho Chi Minh, tu as su leur enseigner l'idéal bien-aimé, pour lequel tu t'es toujours sacrifié.
Deux fois par semaine, il y avait une espèce de radio bambou. Ce radio bambou avait pour en rassembler le camp.
Après c'était, c'était quoi radio bambou?
Radio bambou, si vous voulez, c'était, vous aviez un amphithéâtre, camp 113, et en bout d'amphithéâtre, vous aviez une scène. Sur cette scène, dans cet endroit où je mettais vous la règle pour faire ses cours. Et ce radio bambou servait à la fois d'animation. Nous avions un adjudant qui était un très bon chanteur, qui nous avait fait apprendre l'Orphéon du camp 113. On chantait d'abord, ça commençait toujours par l'hymne Ho Chi Minh, l'international, on terminait par l'hymne Ho Chi Minh et l'international. Mais entre-temps, bon, cet adjudant nous faisait chanter l'Orphéon du camp 113, on pouvait chacun... Et en plus, s'il y avait une autocritique, si un gars avait été choisi pour faire une autocritique pour une bêtise qu'il avait pu commettre, c'est à ce moment-là qu'il montait. Et devant tout le camp, le gars faisait son autocritique, c'est-à-dire plus il descendait, plus il se salissait, aux yeux de la masse, et c'était la masse qui, en définitive, le forçait à décréter, lui sortir les vers du nez. En prenant la parole, le gars, on arrivait à l'amener à ce qu'il se vide carrément. Hein. Quand il sortait de là, quand il descendait de la scène, le gars était vraiment... Il avait vraiment fait son mea culpa. Hein.
Dans le camp, disons, ce que je voudrais qu'il soit bien clair, c'est que la critique et l'autocritique, c'est vrai que ça fonctionnait. Que moi-même aussi, je fonctionnais sur ce régime dans le cadre vietnamien. Mais que cette critique et l'autocritique ne portaient pas sur la politique, elles portaient sur la vie de tous les jours. Est-ce que, à la corvée, pour aller chercher le fagot de bois, il a ramené ce qu'il fallait? Est-ce que, au débroussaillage du matin, il a fait ce qu'il fallait? Alors, je crois que cette notion de critique et d'autocritique n'est pas seulement une notion communiste. C'est un peu une notion asiatique. C'est propre à la société japonaise, à la société chinoise, et aujourd'hui, ça devient même un facteur de modernisation à travers, disons, les cercles de qualité qui consistent à discuter du travail, à voir comment c'est fait.
Chaque soir, après la fin du travail, après avoir subi les cours politiques, donc on rentrait dans nos baraques après le repas du soir, il fallait désigner un brillant et un médiocre. Le brillant, le meilleur de la journée, et un médiocre, le plus mauvais de la journée. Pas facile, parce que le brillant, par tour de rôle, c'était facile d'instaurer un tour entre copains. Bon, très bien. Mais le médiocre, moi je voulais pas être médiocre par rapport à un gars qui avait rien foutu. Ça, c'est normal. Moi, si j'avais fait une corvée de 40 km pendant que l'autre était allongé sur le bas-flanc en train de regarder les marouilles au plafond, il n'est pas question que moi je sois médiocre à la place de ce gars-là. D'où les débats, pas possibles, à l'intérieur. D'où c'est là où la délation a commencé à s'instaurer entre les gars, et ça allait loin. Ça allait loin parce que vous épiez n'importe quelle bêtise. Le gars qui avait des poux, le gars qui urinait à côté de la baraque au lieu d'aller dans un endroit qui était prévu, le gars qui faisait son pantalon, l'autre qui se nettoyait. Enfin, tout un tas de choses, tout y passait. Il fallait trouver le médiocre. Et ce médiocre, le brillant comme le médiocre, le nom était amené par le chef de brigade, donc au commandement du camp, c'est-à-dire à Boudarel, ou au commandant du camp.
Alors, qu'est-ce qui arrivait, justement, aux médiocres ou aux brillants ?
Je sais pas, je suppose que par la suite, ça a dû servir pour les listes libérables.
Georges Boudarel, franchement, est-ce qu'il y a eu, et est-ce que vous poussiez à ce qu'il y ait des dénonciations dans les camps, que des prisonniers, on le dit souvent, se détestaient, se débinaient les uns les autres pour obtenir les faveurs de la direction du camp, pour obtenir des rations supplémentaires, etc.
Moi, je n'ai aucun souvenir d'avoir encouragé des délations, surtout sur le plan politique, parce qu'il me semble que cela n'a aucun sens, et que je le pensais également à cette époque. Je veux bien reconnaître que j'ai dit des bêtises staliniennes, mais je ne pense pas avoir jamais eu le tempérament de quelqu'un qui est un mouchard.
Quand même, Georges Boudarel, votre cas est très particulier, parce que dans cette affaire, vous avez affaire à des prisonniers français, et vous êtes vous-même français, ce sont des compatriotes. Donc vous êtes l'auxiliaire de gens qui, effectivement, font leur politique, ce que peu de gens contestent, mais vous, ce que l'on conteste, c'est que vous êtes français et que vous êtes chargé de la rééducation de prisonniers français.
Là, je contesterai le mot rééducation. Je dirais que j'avais un message à transmettre à ces hommes. Mais il est certain que je n'ai jamais fait ce qu'on appellerait, je crois, en termes de politologie, de la rééducation maoïste à la chinoise. C'est-à-dire, c'est ce que je lis dans certains ouvrages, où on diminue la ration ou on augmente la ration suivant que les hommes signent ceci ou cela. Pour moi, ça n'avait aucun sens. C'est déjà assez atroce sans qu'on en rajoute encore.
Mais Georges Boudarel, ce que je voulais dire, c'est que dans ce camp, vous êtes l'auxiliaire de soldats vietnamiens qui gardent des prisonniers qui vivent dans des conditions abominables. Et vous, vous êtes français, vous êtes mieux loti qu'eux. Est-ce que vous, ça ne vous gênait pas ?
C'est certain que c'était pour moi quelque chose de pénible. Mais je n'avais pas les moyens d'améliorer radicalement cette situation, sinon en demandant au sommet d'envoyer des médicaments, d'améliorer le ravitaillement, ou surtout de libérer tout l'ensemble du camp, qui me semble être la seule solution. Il reste que, en haut, la réponse ne venant pas, j'en étais réduit à avoir une situation sur laquelle je ne pouvais rien.
Après l'action offensive de l'opération Mouette, qui provoque la dislocation de la division ennemie numéro 320 et la prise d'un important butin, Castor s'amorce par le parachutage d'un groupement à Dien Bien Phu, à 80 km au sud-est de Lai Châu.
Novembre 1954, 1500 parachutistes français sautent sur le petit village de Dien Bien Phu, près de la frontière du Laos. C'est l'opération Castor. Son objectif ? Construire un camp retranché dont personne ne devine encore qu'il deviendra le théâtre de la plus grande bataille de la guerre d'Indochine.
Dès l'arrivée au sol, les premières sections sont accrochées sérieusement par les troupes Viet Minh, surprises de cet assaut. Les armes automatiques, canons sans recul, mortiers, entrent immédiatement en action. Le Viet Minh se retire précipitamment vers les collines boisées. Les chasseurs Birkat et les bombardiers B-26 protègent les parachutages et attaquent les éléments Viet Minh réfugiés sur les collines proches, dans une jungle épaisse.
Au moment où les parades Bijar sautent sur Dien Bien Phu, à 200 km de là, 80 prisonniers du camp 113 sont sur le point d'être libérés. Depuis 1945, Ho Chi Minh a déjà relâché plus de 4000 hommes, échangés parfois contre des prisonniers Viet Minh. Dans les camps français où ils sont détenus, la mortalité aussi est élevée, comme on l'apprendra plus tard, à la fin de la guerre.
Hanoï, le 11 mars 1955. Le général de Beaufort, chef de la mission française de liaison auprès de la Commission internationale, à monsieur le général d'armée commandant en chef en Indochine. J'ai l'honneur de vous rendre compte des faits suivants. Par lettre du 1er février, vous avez saisi le président de la Commission internationale d'une plainte au sujet des milliers de prisonniers de l'Union française sur le sort desquels l'armée populaire vietnamienne n'a donné aucun renseignement. Il est évident que votre demande entraîne, suivant la loi de la réciprocité, la nécessité pour nous de publier des listes analogues. Or, les renseignements que je reçois, s'ils venaient à être connus, risqueraient de nous placer dans une situation désagréable, sinon difficile, puisqu'ils comportent une liste de plus de 4500 détenus morts en captivité. des renseignements officieux donnés par l'officier de la commission mixte centrale chargée de ce problème me permettent de penser que le nombre de prisonniers de guerre indochinois décédés ou exécutés dépasse au total 9000. Général de Beaufort.
En novembre 1953, 80 prisonniers français sont libérés du camp 113. Georges Boudarel.
Personnellement, mon point de vue était que l'ensemble du camp aurait eu intérêt à être libéré pour résoudre tous les problèmes d'ordre sanitaire et même, disons, du même coup politique, parce que les hommes auraient eu au moins la reconnaissance d'avoir été libérés. Ceci étant, il fallait ensuite dresser des listes. La liste était initialement dressée par les prisonniers eux-mêmes. Moi, personnellement, j'insistais pour qu'on libère tout le monde, mais bon, à partir du moment où on a fait choisir les deux tiers, on transmettait cette liste qui arrivait au sommet et qui revenait parfois avec des noms rayés.
J'ai quitté le camp 113 le 21 novembre 1953 avec, comme chef de convoi, Boudarel.
Claude Baillet.
Nous avons marché 3 jours. Après ces 3 jours, nous sommes arrivés à un endroit sur les bords de la rivière Claire où il y avait une espèce de centre de passage. Et là, nous sommes tombés sur une commission médicale Viet Minh qui a éliminé déjà ceux qui n'étaient pas aptes à marcher, parce que les gars, il n'était pas question de les porter. Là, il y avait 300 km à faire, ou le gars se les faisait, ou il restait. C'était comme ça. Les gars ne voulaient pas se charger de libération au bout, le gars voulait tenir le coup jusqu'au bout. Donc il n'était pas question d'envisager le port d'un copain. Ou tu marches, ou tu restes. C'était dur, mais c'était la loi. La peau vaut bien celle d'un autre. C'est malheureux de le dire, mais nous en étions rendus là. Puis un soir, alors là, pendant ces 3 jours, nous sommes restés 3 jours, Boudarel a pris la parole, il a dit voilà, le gouvernement vietnamien ne peut lâcher qu'un certain nombre d'entre vous. Aïe, aïe, aïe. Il a fait un tri. Il avait déjà classé les gens qui retourneraient au camp 113. On avait marché 3 jours. Alors il s'est appuyé sur tout un tas de peccadilles anciennes. Le gars qui avait, je dis bien, corrigé un copain, l'autre qui il se souvenait qu'il avait volé ici, qu'il avait un petit chapardage quelconque. Mais c'est pas lui qui les a désignés. Il a simplement soumis la liste des gens. Il a fait désigner les gars par la masse, parce que c'était le rôle, c'était son système à Boudarel. Moi je veux ça, mais c'est pas moi qui vais le faire. Je vais vous le faire faire. C'est comme ça que j'ai mon meilleur copain, qui était côte à côte avec moi, là, assis, là, qui se retrouvait sur la liste, etc., qui repartait au camp. Et voilà. Et on en était réduit à ça. Nous sommes partis, et c'est là que nous arrivons à l'histoire de l'œuf.
Un œuf a été volé dans une maison de la population, et la cellule locale en faisait toute une histoire. Et c'est là où on dit que Boudarel était pire que le côté vietnamien. Il y avait une tendance à dire, on renvoie tout le groupe de 10 à 15 hommes qui étaient là. Le problème était qu'on ne pouvait pas s'éterniser dans ce hameau dont les capacités de ravitaillement étaient assez faibles, et que c'est là où j'ai préconisé la solution. Vous dénoncez le responsable de ça, puisqu'il ne veut pas lui-même se présenter à la population et faire des excuses, ce qui aurait réglé tout le problème. L'homme a été renvoyé.
Après le vol de l'œuf, nous avons continué, nous sommes restés 48 heures dans un lieu où Boudarel n'a pas cessé de nous dire, quand vous serez de l'autre côté, vous ferez libérer les prisonniers vietnamiens. Vous irez jeter vos décorations au monument Hanoï. Vous refuserez tout de la Croix-Rouge. Enfin, tout un tas. Et ça, nous l'avons répété pendant 48 heures. Et moi, je suis arrivé sur un poste. Alors, un petit matin, on avait deux Vietnamiens qui nous escortaient. Et ces deux Vietnamiens de Bodoy ont appelé les deux camarades. Ils ont dit, voilà, le poste est juste là en haut. Mais ne sortez pas tant qu'il ne fait pas jour, parce que nous étions habillés, là, mon tenue est là ici, nous étions habillés en Viet. Attention, autrement, ils vont vous tirer dessus, et il faut que vous attendiez le jour. Mais nous avions les tracts dans les poches, plein en chemise, nous avions le drapeau rouge avec l'étoile jaune, nous avions des panneaux avec abat la sale guerre, abat le colonialisme impérialiste américain, vive la paix au Vietnam, on se pointe comme ça, imaginez-vous, le chef de poste qui nous voit arriver, il voit arriver 30 gaziers qui déboulent le matin, au petit jour, sur un poste français, avec un fourbis comme ça, en chantant. Le gars, pour sa première réaction, il sort avec une section de supplétifs, il les fait mettre en position en dehors du poste, et il nous tire dessus, à la verticale, bien sûr. Moi, je me jurais bien, je dis à mon copain, et le premier gus qui va tomber sur ça, celui qui nous a tiré dessus, il va l'entendre parler. Alors, quand il nous a demandé d'avancer, je me suis avancé avec un camarade, et à 5 ou 6 mètres, il nous a fait arrêter. Et il nous a dit, mais... Jetez-moi ces panneaux. Ah, je n'en jetterai pas les panneaux. J'ai dit, non, je n'en jetterai pas les panneaux. Nous, on est libérés, mais derrière nous, il y en a encore là-bas qui attendent. Et dans les supplétifs qui sont couchés là, à côté de vous, si ça se trouve, ils vont rendre compte aux Viettes de ce que nous avons fait. Si on ne fait pas ce que les Viettes nous ont dit de faire, c'est nos copains qui vont payer. Vous le comprenez, ça va, vous le comprenez pas, c'est pareil. Ça ne m'a pas valu les points. Je vous dis, on va le dire tout de suite. Il nous a pas serré la main, nous avons monté dans les camions, nous avons distribué notre tract tout le long de la route, et alors là, on est arrivé, donc on nous a amené à l'infirmerie de garnison à Neuilly, où on nous a interdiction formelle de voir nos anciens copains. Là, on a eu l'impression qu'on subissait une deuxième quantité. On n'a pas su nous prendre au retour.
Quelques semaines après la libération de Claude Bailey, on apprend la chute du camp retranché de Dien Bien Phu le 7 mai 1954. La France y a perdu plus de 10 000 hommes. Elle y a surtout perdu la guerre, qui se termine le 20 juillet 54 à Genève.
Ici Genève. La séance finale de la conférence sur l'Indochine s'est terminée cet après-midi. Monsieur Pierre Mendès-France vous parle.
La raison et la paix l'ont emporté. Après des journées et des nuits de dures négociations, chargées tantôt d'anxiété et tantôt d'espoir, le cessez-le-feu a été signé. Songeons ensemble à ceux qui, hélas, ne reviendront pas, à ceux qui sont restés meurtris dans leur chair et dans leur cœur. Que notre pensée se tourne aussi vers ceux qui ont un être aimé, exposé sur le front ou prisonnier, et dont les angoisses vont cesser. C'est tout ce que je voulais vous dire ce soir. Je n'ai pas besoin d'exprimer les sentiments que j'éprouve, car ce sont les vôtres.
Claude Bailey, est-ce que aujourd'hui, maintenant près de 40 ans après votre libération, 37 ans, vous considérez qu'il faut continuer à poursuivre Georges Boudarel et de l'accuser même de crimes contre l'humanité ?
Moi, je pense que c'est difficile de ne pas. Ce n'est pas d'animosité que je... Ce n'est pas pour régler des comptes avec une personne. Il faut voir quand même que au camp 113, quand moi je suis parti, il n'y avait plus de 100 ombres. Je ne parle pas, je suis arrivé 5 mois après les autres. Avant, moi j'ai connu que le nouveau cimetière. Donc quand on est commandant en seconde d'un camp comme ça, on ne peut pas dire qu'on n'est pas impliqué dans une affaire. Il faut bien appeler les choses par leur nom.
Georges Boudarel, bon, aujourd'hui, ces événements sont passés il y a fort longtemps. Aujourd'hui, brusquement, ils resurgissent dans l'actualité. On vous a accusé d'être un tortionnaire, vous vous êtes expliqué abondamment dessus, d'être un traître, etc. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus, quand même, sur vos activités de l'époque ?
Je crois avoir eu un jour une phrase malheureuse, car elle a été mal interprétée. Je disais, je ne regrette rien. Je crois qu'il faut la nuancer fortement. Il est certain que je regrette profondément de m'être trouvé dans une situation dramatique, kafkaïenne, dans ce 1513, que c'était à refaire aujourd'hui. Je refuserais cette mission dans les conditions où j'ai dû la mener. Que pour autant, je pense que de tenir des propos politiques à des hommes qui sont libérés unilatéralement ne me semble pas être un crime contre l'humanité. Je regrette également profondément mon option stalinienne. Avoir refusé de croire Kravchenko, avoir avalé les théories de Lysenko, me semble d'une stupidité incommensurable. Mais pour autant, je pense avoir eu profondément raison sur la question coloniale. Je pense que si en 1950, la politique de la France avait été de négocier avec Ho Chi Minh, arrêter la guerre, on aurait évité Dien Bien Phu et que tout le monde s'en serait mieux porté, le côté vietnamien comme le côté français.
Il y a un an, presque jour pour jour, les troupes françaises disaient un dernier adieu au Tonkin, à ce Tonkin témoin de tant de sacrifices dont on voudrait qu'ils ne fussent pas inutiles. Aujourd'hui, pour la dernière fois, les derniers éléments du corps expéditionnaire, représentés par quelques détachements symboliques, rendent un suprême hommage aux combattants français et vietnamiens tombés au champ d'honneur. Le général Jacquot dépose maintenant une gerbe au pied du monument aux morts, près de la flamme du souvenir que tout à l'heure les anciens combattants ont apporté.
Moi, je dis au jour à un camarade qui est venu, là, il se souvient de rien. J'ai dit, t'as la chance. Moi, j'ai pas cette chance-là. Malheureusement, c'est que moi, je me lève, ils me font rien, moi, puis je suis au camp 113. Moi, je suis autant au camp 113 que je suis en train de travailler ma terre, vous comprenez. En travaillant ma terre, je suis au camp 113. Moi, le camp 113, c'est, ça fait partie de ma vie.
C'était Histoire d'un camp Viet Minh. Avec les témoignages de Claude Bailey, Georges Boudarel, Hu Nhop, Jean Pouget et Marcel Bijard. Texte dit par Jean-Luc de Baptiste et Léon Fan. Archivina et documentation, Philippe Caffin, Annie Saunier, Rebecca de Nantes. Prise de son au Vietnam, Patrick Marguerite. Mixage, Nathalie Gutiérrez, Annick Brien. C'était L'Histoire en direct, une émission de Patrice Gélinet, réalisée par Christine Bernard-Sugy.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 3 juin 1991. À suivre.